Les rencontres d'Edmond Morel. Sami Tchak, vous êtes, je suis très heureux de vous rencontrer. Vous êtes à Bruxelles à l'occasion du lancement d'un nouveau réseau de promotion des littératures d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Alors, on sait que vous êtes sociologue de formation et romancier. Ma première question porterait sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on choisit de faire un essai sociologique comme vous l'avez fait sur la prostitution à Cuba, par exemple, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la langue littéraire, l'écriture est indispensable.
Disons, avec la sociologie, j'avais la prétention, comme beaucoup de personnes dans ce domaine-là, d'être dans la science. Ce qu'on dit, il faut être objectif, évacuer ses sentiments. C'est plutôt à cause ou grâce à ce que j'évacue quand je fais le travail de sociologue que je me suis dit, il y a peut-être l'essentiel à dire quand on assume sa subjectivité. Et il n'y a que la littérature qui nous mette d'emblée devant notre subjectivité, puisque ce que nous disons n'a pas besoin de l'administration d'une preuve, c'est notre vision du monde.
Alors, en quoi est-ce que l'exil d'une part, la langue française d'autre part, peut créer des liens entre les littératures de ces trois régions du monde, l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique?
Oui, disons, je mettrai tout dans le même paquet de l'exil, en ce sens que il recouvre, à mon avis, tout. Une fois qu'on s'est engagé dans la littérature, je pense qu'on s'est d'emblée, même quand on vit chez soi, exilé un peu de sa propre communauté, de sa propre société. Je pense particulièrement à un écrivain comme Lessa Malima, qui fait partie de mes grandes références, le cubain Lessa Malima, qui disait « Je vis exilé dans mon île », lui qui n'est peut-être pas souvent sorti de Cuba, trois fois dans sa vie, il a quitté son île. Donc, ce que l'exil nous donne comme avantage, entre guillemets, c'est plutôt l'obligation de trouver des parentés qui dépassent le cadre géographique. Notre pays, le pays du voisin, l'exil nous permet d'écouter peut-être beaucoup plus d'imaginaires qui viennent d'ailleurs, les liens se font. Mais quand on quitte son pays, ben là, il y a un autre avantage, c'est que on rencontre beaucoup plus de littérature transportée par des êtres humains qu'on a l'occasion de croiser qu'on l'aurait fait si on était resté chez soi. Je ne pense pas que j'aurais vu Dany Laferrière si j'étais au Togo. On ne se serait peut-être pas rencontrés. On a cette chance-là.
Le premier disons, déplacement que vous avez fait vers Cuba apporte aussi cette dimension de l'insularité que vous évoquez, qui est un point commun que vous avez finalement avec Dany Laferrière. Est-ce que ça a joué un rôle de se retrouver dans l'environnement hispanique, mais dans cette île?
Oui, ça a joué un rôle dans la mesure où c'est vrai, c'était ma première expérience avec une île. C'est une chose que j'avais plutôt en abstrait. Et pour une fois, je me retrouvais quand même dans un espace clos, définitivement clos. Mais c'est peut-être là que j'ai senti aussi la véritable ouverture de la littérature. Parce que quand je lisais sur place des auteurs comme Alejo Carpentier ou Ronaldo Arenas ou Guillermo Cabrera Infante ou Lessa Malima, j'avais l'impression quand même que si la terre qu'ils ont habitée est cernée d'eau, leur livre casse toutes les frontières et j'étais transporté partout ailleurs quand même grâce à un livre comme Le siècle des Lumières. J'étais en train de revivre la Révolution française, je vivais ses implications dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et tout. J'ai compris quand même la puissance de la littérature, comment elle peut décloisonner un espace aussi clos qu'une île.
Alors vous avez mis en pratique cette observation en situant la plupart de vos romans après Hermiona dans une région qui n'a plus rien à voir avec l'Afrique, mais dans laquelle vous transposez d'une certaine manière votre vision de l'Afrique.
Oui, disons, il y a une chose qui me semble absolument évidente. Si les moutons avaient une possibilité de parler des humains, ils parleraient des humains à l'image des moutons. C'est un peu ce que j'ai retenu quand même de toute d'écrivains qui se déplacent. On a beau s'intéresser à un espace qui n'est pas le nôtre, je pense que les coins d'où nous venons, les cultures qui sont les nôtres, influencent un peu notre regard, si bien que la façon dont je parle de Cuba ou de la Colombie ou du Mexique ne sera jamais celle des Cubains, des Mexicains ou des Colombiens. Je parle en togolais, qui vient d'un tout petit village du Togo, qui a une culture que le Cubain ne connaît pas et qui devient la petite lucarne à partir de laquelle je regarde l'Amérique latine.
On sait l'importance du style, l'importance du travail sur la langue. Dans quelle mesure est-ce que votre langue littéraire se nourrit-elle de la langue d'autres écrivains, des pays dans lesquels vous situez l'action de vos romans, comme on pense évidemment pour la Colombie à Gabriel Garcia Marquez?
Oui, assez souvent d'ailleurs, cette question se pose, même à moi, parce que les premières lectures que j'ai faites de ces grands auteurs latino-américains, en nombre infini quand même quand on essaie de les citer, je les ai lues en français. Disons qu'ils écrivent en espagnol, mais je les ai lues en français. Cependant, quand je lis ces auteurs-là, même en français, je sais que je lis une autre langue. C'est-à-dire la langue de Garcia Marquez, même traduite, reste une langue que je ne trouve pas chez les auteurs français qui n'en sentent pas la nécessité. C'est ce qui va peut-être me rester, quelle que soit la qualité de la traduction, c'est peut-être une musicalité qu'un auteur a qui fait que même quand j'ai oublié peut-être ce que j'ai lu, je me souviens de l'univers, de l'atmosphère d'un roman. Je me souviens toujours de l'atmosphère d'un roman comme « Cent ans de solitude ». Je me souviens de l'atmosphère d'un roman comme « L'automne du patriarche » de Garcia Marquez. Et ça peut quand même devenir en réalité la langue de l'auteur, c'est-à-dire celle qui est toujours étrangère à toute langue connue.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où ce processus de décider en tant qu'écrivain de situer dans un autre endroit que l'Afrique ou que le Togo, comment est-ce que vous vous souvenez comment ce processus finalement créatif s'est décidé?
Oui, c'est venu de façon, j'allais dire, presque naturelle, grâce à cette fascination que ces auteurs-là ont exercée sur moi. À un moment, la question que je m'étais posée, c'est, après les avoir lus, après avoir découvert un tout petit peu les espaces qui les ont inspirés, est-ce que je peux oser, par exemple, placer mon regard, mon univers, mon ambiance, là où ils ont peut-être déjà saturé l'espace de toute leur créativité? Il y avait comme une sorte de défi. Garcia Marquez, tous les autres sont déjà passés par là. Est-ce que je peux oser? Et puis, ça m'est venu de façon presque naturelle comme un défi. Après, c'est vrai que j'ai pris un énorme plaisir à être dans les pas de ces gens qui continuent à me nourrir.
Alors j'aimerais qu'on revienne un peu à cette dichotomie entre le travail scientifique du sociologue et le travail émotionnel, je dirais, de l'écrivain, en vous demandant votre réaction sur ce postulat, qui est que le roman permet d'entrer dans la complexité des choses et de ne pas juger. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en utilisant le roman, vous parvenez à donner une image de l'Afrique, une image du Togo, une image de votre monde que vous n'auriez pas pu donner autrement?
Oui, je crois que de toutes les façons, la littérature, c'est donner ou bien une image ou mieux une vision personnelle. Ce qui fait que, contrairement peut-être à ce que certains auteurs disent, l'écrivain n'est pas le mieux placé pour donner d'un continent ou d'un pays une image plus juste, dans la mesure où il complexifie même la subjectivité des regards. Il n'est pas le meilleur observateur, il est même celui qui ramène peut-être une complexité à sa complexité intérieure. Ce qui fait que si du même pays nous avions un aveugle qui écrit, un paralytique qui écrit, un chasseur qui écrit, je pense que le fait d'être aveugle, chasseur ou paralytique influencerait le regard qu'il donnerait du coin d'où tous viennent. Ce qui fait que de plusieurs écrivains venant du même pays, on n'a jamais les mêmes univers. Donc, je pense quand même qu'un écrivain a une seule prétention, c'est d'inviter le lecteur dans son monde à lui, et que le lecteur ne pense pas que l'écrivain est en train de lui donner la vérité, l'image juste d'un continent ou d'un pays.
La meilleure preuve étant qu'il n'y a pas, que cette vérité-là n'existe pas.
N'existe pas, dans la mesure où c'est quand même un univers disons, esthétique dans lequel on pourrait aller chercher ses propres vérités. Moi, les auteurs qui m'ont le plus souvent parlé, c'est ce qui me permet peut-être de revenir à moi pour chercher mes propres vérités. L'écrivain nous aide peut-être à nous faire un regard personnel, à nous libérer même de ce qui s'impose comme vérité. C'est même pour ça que parfois la science ne suffit pas, puisque la science prétend quand même nous imposer une vérité. Par exemple, si je prends des choses qu'on ne peut plus vérifier, la science a réussi quand même à nous imposer l'image du dinosaure. Nous ne savons même pas si c'est vrai, mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de dinosaure sans que l'image imposée nous vienne à l'esprit. L'écrivain n'a pas d'image aussi définitive à proposer. C'est qu'une fois qu'on est rentré dans son univers, on revient peut-être à soi avec peut-être des questions renouvelées ou des réponses qui deviennent encore plus compliqué à accepter comme définitive.
Dans le cadre de la mise en place d'un réseau de promotion de la littérature africaine, caraïbe, pacifique, dans quelle mesure est-ce que vous avez le sentiment d'être lu au Togo, dans votre pays? Est-ce que l'accessibilité de vos livres, de votre littérature, de votre vision du monde est suffisante là-bas?
Il y a, j'allais dire, au moins deux limites quand même. La première, c'est que les livres ne circulent pas aussi aisément de la France vers le Togo. La deuxième, c'est aussi, même s'il y a de temps en temps mes livres dans certaines librairies, les moyens que les gens ont peut-être de les acheter. La troisième, c'est aussi les habitudes de lecture. Dans la mesure où, au-delà de la disponibilité, il y a quand même des contextes dans lesquels on lit moins. Même ceux qui sont théoriquement capables de lire lisent moins, dans la mesure où ce n'est pas rentré dans leur habitude depuis l'enfance et tout. Donc au Togo, non seulement les gens lisent très peu, mais ils lisent encore moins des auteurs publiés en France dont les livres reviennent chers. Donc mon lectorat, on peut dire que l'essentiel se situe plutôt dans les universités où des étudiants s'intéressent à mes textes pour des mémoires, des thèses et tout. Mon public est universitaire, c'est-à-dire une portion très, 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 très marginale des Togolais qui sont capables de lire.
Et au niveau des lecteurs non togolais et non africains, les lecteurs européens, les lecteurs, vous êtes traduits, je pense, aussi.
Oui, donc,
ces lecteurs occidentaux, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils entrent dans votre vision du monde et quelle est l'impression qu'ils vous répercutent?
Il y a peut-être un avantage du lecteur occidental moyen par rapport au lecteur de tous les autres espaces, c'est que le lecteur moyen occidental ne rentre pas dans l'univers des écrivains qui ne sont pas occidentaux. Assez souvent, il les lit en essayant de trouver en quoi ils ressemblent un peu à ce qu'il connaît. Ce qui fait que quand on lit un auteur, on pourrait s'extasier, ah ben, il est comme Céline, il est comme... C'est-à-dire, le lecteur occidental a quand même... Le lecteur moyen, il a cet avantage, parce que je considère ça comme un avantage, de venir d'une société dont les schémas sont devenus l'universalité de tout le monde. Donc tout ce qu'il appréhende, c'est en fonction de cette idée que ce qui est universel vient de chez lui. Ce qui fait d'ailleurs que parfois, il peut, quand un univers est un peu décalé par rapport à ses normes, dire là ce n'est pas cohérent, par exemple, dans la mesure où ça sort un peu de cette rationalité ou cette cohérence dont il a l'habitude. Ce n'est pas aussi vrai que parfois le lecteur occidental se laisse bousculer par d'autres univers. Il est plutôt dans la tendance à ramener les autres univers à ce qu'il connaît. Il juge en fonction, ce qui est quand même quelque part logique et humain.
Mais vous basez cette observation sur des réactions que vos lecteurs ont eues? Parce qu'il me semble que chaque, comme vous disiez, que chaque auteur crée aussi son univers, il y a cet univers aussi de la poésie de la langue, de la construction d'une nouvelle langue qui fait qu'on entre dans un autre univers.
Oui, c'est vraiment l'expérience qui me fait dire ça, parce qu'on est même arrivé à plutôt cette réalité un peu drôle de pouvoir faire le portrait de l'écrivain africain ou caribéen par rapport aux remarques des lecteurs. Ils vont dire, ah ben, vous vous dites ceci, alors que quand j'ai lu Fatou Diome ou Leonora Miano, ce n'est pas exactement ce qu'elle dit. La personne oublie que ben, Fatou Diome est un écrivain, Leonora Miano, un écrivain, moi, un écrivain, et qu'en réalité, je ne souhaite pas qu'on dise que ce que j'ai dit, c'est ce que Fatou Diome ou Leonora Miano disent. C'est-à-dire, le lecteur part de l'idée que si on est auteur africain, ce qu'on véhicule, le voilà, et sa perception, elle lui vient plutôt de ses habitudes et de ses attentes de lecteur occidental. D'ailleurs, ce qu'il va apprécier dans un roman n'est pas nécessairement peut-être la démarche littéraire de l'auteur, parfois c'est le discours. Et ce discours peut correspondre peut-être à des discours habituels ou aux attentes habituelles quand même quand l'auteur est africain ou caribéen. Et à ce moment-là, ce qu'il refuse peut-être, c'est d'établir ce lien d'incertitude qui fait que quand on ouvre un livre, on ne sait pas où on va, dans la mesure où on est invité comme chez quelqu'un. Et quand on est invité comme chez quelqu'un, on est plutôt, en réalité, ouvert aux surprises qui peuvent être désagréables. On peut être aussi dans la déception. Mais quand on y va avec, peut-être, bon, ben, moi, il y a telle qualité de vin que je dois boire, il y a telle qualité de repas que je dois manger, on part avec l'idée qu'on ne va pas découvrir, on va juger en fonction de soi. Ouais. Et souvent, c'est quand même le lien que nous avons avec les lecteurs, et ça peut être amusant, mais parfois c'est un peu frustrant.
Est-ce que cela voudrait dire qu'il faudrait peut-être faire une sorte de travail éducatif à l'égard des lecteurs pour leur enlever leur vision du dinosaure et accepter...
Non. Ce n'est pas tellement ça, c'est que ça renvoie à une réalité de la littérature que souvent on oublie. Mmh. En fait, la littérature est quand même quelque chose de très ombilical. En fait, un auteur écrit, à mon avis, même quand il n'en a pas conscience, il écrit quand même pour un espace, un territoire linguistique ou géographique, des gens peut-être qui sont dans les mêmes imaginaires que lui, qui le liraient de façon assez différente. Et on pourrait dire, peu importe la façon dont il est lui à l'extérieur, parce que je suis sûr que la façon dont les lecteurs chinois sont lus en Chine n'a rien à voir avec la perception qu'on a d'eux quand ils sont traduits en Occident. Le vrai problème des auteurs, peut-être africains et caribéens dans une certaine mesure, c'est que eux, ils ne sont lus qu'ailleurs, pas chez eux. Ce qui fait que la lecture qu'on pourrait dire essentielle manque de leurs œuvres dans la mesure où ils sont dans ce lien extraverti, ils sont lus par des lecteurs qui ont peut-être d'autres habitudes et d'autres attentes que les gens peut-être dont ils parlent et qui auraient une perception tout à fait différente de leurs œuvres. Je m'en suis rendu compte, par exemple, quand je suis en Colombie et que je discute avec les gens de milieux plutôt très cultivés, des auteurs comme Garcia Marquez, je me rends compte quand même que, 100 ans de solitude, la perception que j'ai pu avoir grâce aux critiques occidentaux est totalement différente de celle qu'ils ont, parce que beaucoup de choses que je crois sorties de l'imaginaire fantasque de Garcia Marquez appartiennent à leur propre imaginaire qu'ils connaissent très bien. Garcia Marquez ne l'a pas inventé. Ils expliquent dans tel coin de la Colombie, c'est plutôt telle croyance, ça vient de... Et leur lecture n'a rien à voir avec celle que moi je pouvais avoir ou celle qu'un Français moyen a.
Alors, je vais terminer cette interview, si vous voulez bien, en vous posant la question que je pose à tous les écrivains concernant Albert Camus. Albert Camus, dont on va célébrer le centenaire de la naissance en 2013. J'aimerais savoir, Samitia, a-t-il eu un rôle? Est-ce qu'un de ses livres vous a frappé? Quelle était votre rencontre avec Camus?
Oui, disons que c'est même devenu presque impensif de le dire. Camus a influencé beaucoup d'auteurs par l'étranger. Dany vient d'en parler. Mais moi, ce n'est peut-être pas pour les mêmes raisons. L'étranger a été vraiment le premier livre de Camus qui m'a frappé, alors que j'ai commencé par La Peste. J'ai lu d'abord Camus j'ai découvert Camus par La Peste, après par Le Recueil de Nouvelles, L'Exil et Le Royaume, avant de lire L'étranger. C'est en lisant L'étranger, dès les premières pages, L'envie d'écrire m'est venue. Pourquoi? Parce que je me dis, ben, si c'est ça, c'est quand même facile. C'est vraiment facile. On peut quand même avoir une langue aussi simple et être écrivain. Avant que je ne rentre dans la complexité du livre pour me rendre compte que peut-être c'est le plus abouti de ce que moi j'ai lu de lui, dans la mesure où cette simplicité permet de montrer une situation, peut-être de décalage. On parle d'absurdité, peut-être. Moi, je dirais, au-delà même de l'absurdité, ce qui a frappé ou qui me frappe dans ce livre, c'est cette sorte de nihilisme du narrateur Mersault qui fait qu'à un moment, la société le juge, pas parce qu'il a commis un crime, pas parce qu'il a tué un arabe, le juge parce qu'il a refusé d'être comme le citoyen normal. On aurait même pu comprendre qu'il ait commis un crime en le justifiant comme un citoyen normal. Pas les justifications qu'il donne, le soleil sur un métal qui lui renvoie l'image de quoi. Et puis, on tue quelqu'un pour... Ce décalage absolu du début jusqu'à la fin fait que ce personnage auquel on aura du mal à s'identifier devient la grosse question au cœur de la littérature. Un vrai personnage, c'est qui? C'est peut-être celui qui nous déboussole de nos habitudes et nous ramène à nous poser d'autres questions que nous ne nous serions jamais posées autrement. Moi, Camus, il est entré vraiment dans mon imaginaire grâce à l'étranger et grâce à son personnage Mersault.
Samitia, je vous remercie pour cet entretien. Et puis, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se plonger dans votre bibliographie et à y lire les romans que vous avez publiés et qui vous ont valu d'ailleurs différents prix littéraires. Et je terminerai en citant Alain Mabankou qui dit de vous que vous êtes le romancier le plus hardi et le plus iconoclaste de la littérature subsaharienne contemporaine. Et voilà, je ne sais pas, c'est une citation qui vous convient?
Disons, Alain est très généreux.
Merci, vous êtes très modeste. Merci, Sabitcha.
Merci.
Les rencontres d'Edmond Morel.